qui soit clair et qui soit démonstratif. Il faut démontrer quelque chose, il faut convaincre et laisser un certain nombre d'informations précises. Et aussi, il faut savoir ce que l'on dit. Par exemple, vous dites « Libana a joué un grand rôle dans la doctrine de l'Ash'ari ». Mais vous savez, combien d'entre vous savent ce que c'est que Libana ? Qu'est-ce que c'est que Libana ? Personne ne sait. Vous-même, je ne sais pas si vous êtes allé voir. Vous savez ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?
C'est un écrit de l'Ash'ari. Voilà.
Vous ne devez pas, ça c'est absolument interdit, de prononcer un seul mot, une seule référence devant un auditoire, en sachant pertinemment que cet auditoire l'ignore. Vous avez bien vu, chaque fois que je prononce un mot qui est nouveau, je m'arrête, je fais un retour en arrière, j'interromps mon exposé pour vous l'expliquer. Je ne peux pas avancer. Je ne peux pas prononcer le mot Ibana de l'Ash'ari sans vous dire ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que l'Ibana ? Sinon, ça ne sert à rien que je l'énonce devant vous.
Qu'est-ce que c'est que l'Ibana ? Il m'a fait dire plusieurs autres notions.
Alors justement, le grand reproche que l'on peut vous faire et qui aurait dû vous être fait, c'est que le plan que vous avez tracé là, c'est un plan que vous avez repris,
oui, dans l'encyclopédie de l'Islam.
Dans l'encyclopédie de l'Islam ou bien dans le livre de Subhi Saleh. Et alors, est-ce que vous êtes obligé, quand vous faites un exposé, de prendre un plan tel qu'il est dans un ouvrage ou dans l'encyclopédie ou dans je ne sais quoi? Est-ce que vous êtes obligé de faire ça? Non seulement vous n'êtes pas obligé, mais il vous est interdit de procéder de la sorte. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de présenter des connaissances que vous avez assimilées, et non pas des connaissances que vous prenez là et que vous mettez là. Ça ne vous intéresse pas, c'est en dehors de vous. Vous prenez des connaissances dans l'encyclopédie de l'Islam, vous les écrivez au tableau, et vous êtes en dehors. Vous n'avez rien assimilé. Tandis que si vous aviez assimilé les connaissances, à ce moment-là, il y aura un plan personnel qui vous apparaîtrait. Et vous donnez un plan personnel. Et quand on vous demande de disserter sur quelque sujet que ce soit, il faut vous engager personnellement avec votre plan. Je m'en fiche pas mal du plan de Subhi Saleh ou de l'encyclopédie ou de M. Harkoun ou de n'importe qui. Je m'en fiche pas mal. Et je me cite moi-même pour que vous ne croyez pas que j'attends que vous répétiez ce que moi je dis. Non. Je veux que vous disiez des choses en utilisant des éléments que j'ai dit, des éléments que vous avez lus ailleurs, etc., etc., mais que vous les disiez avec votre manière. Et là, c'est là qu'on apprend quelque chose et qu'on se forme intellectuellement.
L'article même de l'encyclopédie d'Islam a repris le plan de ce passage.
Oui, oui. Ou bien lui a repris le plan, ou bien l'inverse.
Non, parce que celui-là est antérieur à l'encyclopédie d'Islam. Ce passage est antérieur à l'encyclopédie d'Islam.
Oui.
Parce que il faut maîtriser la matière.
Qui est Subhi Saleh, vous demande à quelqu'un là. Effectivement, vous avez cité l'auteur. Il y en a beaucoup ici qui ne saisissent pas, vous avez vu.
J'ai dit que c'est un professeur à la faculté.
Oui, il faut écrire son nom, vous avez vu que j'écrivais. Ben, on m'a rappelé à l'ordre et on a bien fait. Et effectivement, il faut l'écrire. Subhi Saleh. C'est un Libanais qui a fait une thèse ici, une thèse bien mince d'ailleurs, et qui est très discutable. Je ne vous conseille pas du tout de vous fonder sur cette thèse pour pouvoir traiter ce sujet. Ça ne vaut pas grand chose, cette thèse là et si j'avais été dans le jury, il ne l'aurait pas passé. Ah non, 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 mais évidemment, évidemment,
et c'est la seule bibliographie.
C'est un petit travail scolaire, ça n'est pas une thèse. Il n'aurait jamais dû passer sa thèse avec ce travail là
C'est la seule bibliographie citée par l'encyclopédie d'Islam.
Oui, mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de suivre qui que ce soit.
Pas un
taqlid ou un ijtihad. Pas de taqlid. Alors, si vous voulez référer à ce livre, vous dites Monsieur Sobhi Saleh a fait un livre sur le sujet et qu'il a présenté comme thèse de doctorat, mais attention, je ne vous conseille pas de lire ce livre. Ne vous référez pas à ce livre, parce qu'il va vous donner un plan qui est mauvais et il va vous présenter une matière qui va vous égarer plutôt que vous guider sur le sujet. Il y a des livres qu'il ne faut jamais conseiller, il faut les écarter. C'est ça la bibliographie critique. Quand on vous demande de faire une bibliographie critique, c'est-à-dire que vous choisissez la référence qui est utile, qui renouvelle le sujet, qui donne des idées neuves et pertinentes sur le sujet. C'est ça la bibliographie. Et ici, non, ça n'est pas le cas.
Salut, mais vraiment c'est dommage parce qu'on a discuté autrement tous les deux, on a discuté autrement le sujet. On a fait les données coraniques, Shkhal Qur'an, concernant la Jannah, c'est une transcription pure et simple de ce qu'avait dit le Coran. Puis on a en deux lignes toutes les exégèses, Mu'tazila, l'Ash'ari, tout ça dans deux lignes. Puis pourquoi le Coran a dit comme ça, le Jannah, pourquoi il est écrit comme ça? On a enseigné parce que les Arabes, les Bédouins ont souffert de la chaleur, et les
oui. Tout
ça, on a fait dans ce plan-là.
Nous, oui. On peut concevoir les choses ainsi.
Ainsi, on a conçu ainsi.
Mais,
non seulement ça, mais on peut aussi, non, à travers les citations de Jannah. Par exemple, lorsqu'il dit Jannah tahta aqdam al-umma'at, c'est à partir de là qu'on peut essayer de se localiser et de faire de
bon. Bon, alors je continue mon analyse de cet exposé, l'analyse que vous auriez dû faire. Je vous ai donné la parole pour que vous réagissiez et que vous critiquiez, et il semble que si vous aviez fait l'exposé, vous seriez tombés tous ou à peu près dans les mêmes inconvénients que votre camarade. Bon, alors le problème, c'est que jusqu'à présent, l'exposé que j'ai fait moi, le cours que nous avons fait, nous en sommes toujours, hélas, au premier siècle de l'Égypte. Nous n'avons pas encore parlé des Mu'tazilites, on n'a pas encore parlé de l'Ash'aris, on n'a pas encore parlé des philosophes et des soufis, un peu des philosophes, mais pas encore vraiment des principaux philosophes, et on n'a pas parlé de ces auteurs-là. Donc, il y a un tas de notions. Il y a un parcours, si vous voulez, de l'histoire de la pensée islamique que vous introduisez alors que vous n'êtes pas encore au courant de tout cela. Donc vous pouvez, la notion de Jannah, dire, bon, jusqu'à présent, si nous devons nous appuyer sur ce que nous avons vu jusqu'ici, nous pouvons parler de la notion de Jannah telle que le Coran nous la présente, puisque nous avons déjà un peu fréquenter le Coran, un peu, trop peu. Bon, et nous pouvons faire allusion à quelques indications sur la tradition musulmane qui déjà au premier siècle de l'Égypte commence à se former, comment la tradition musulmane a parlé de ce thème du paradis tel qu'il lui a été présenté dans le Coran. Et puis, vous pouvez dire, bien entendu, il y a eu des développements ultérieurs après le premier siècle. Ça ne s'arrête pas au premier siècle. Comme toutes les autres idées, tous les autres problèmes que nous avons évoqués, il y a eu un développement de tous ces problèmes. Il y a eu diverses écoles que nous verrons par la suite. Ainsi, votre exposé s'inscrit dans la suite du cours. Et vous ne débordez pas la matière du cours, et vos camarades, à ce moment-là, ne seraient pas égarés avec des indications, encore une fois, que nous n'avons pas encore vues. Bon, voilà pour la critique, si vous voulez, la forme de l'exposé et l'exécution. Bon, maintenant, comment peut-on présenter ce sujet-là, si nous voulons parler du thème du paradis dans la pensée islamique? C'est un sujet, le thème du paradis. dans la pensée islamique. Voilà le sujet. Le thème du paradis.
C'est-à-dire qu'à votre avis, il ne fallait pas voir les différentes explications.
Voilà, tout ça, je l'efface. J'efface tout ce plan-là. Il s'agit d'abord de présenter le thème, encore une fois, à ses débuts, dans le Coran. Alors, la première chose à dire, c'est que le terme Jannah, en arabe, ça veut dire un jardin. Un jardin. On l'appelle aussi Boustan. Jannah, comment ?
Un jardin préparé.
Un jardin, de n'importe quel jardin.
Il y a deux sortes de jardins.
Ah ben, un jardin en français, c'est toujours, comme le Jannah, c'est toujours quelque chose qui est travaillé, tant soit peu, par l'homme. Bien sûr. Tout jardin est travaillé. Il n'y a pas, sinon c'est un champ en friche. Ça ne s'appelle pas jardin. Donc si je dis jardin, ça suppose l'intervention d'un jardinier, de quelqu'un qui arrange, qui plante et qui rend le lopin de terre plus ou moins agréable selon les compétences du jardinier. Par conséquent, dès le départ, il faut bien dire que la référence ou l'emploi du mot jardin, tel qu'il apparaît dans le Coran, est un emploi métaphorique. C'est une métaphore. Isti'ara.
Qui a dit
comment?
Qui a dit que c'est une métaphore? Il y a les écoles justement diffèrent là-dessus, divergent là-dessus.
Oui.
C'est votre interprétation personnelle?
Oui. Comment?
Vous dites que c'est une métaphore.
Ça n'est pas une métaphore.
Voilà. Voilà ce qu'on vous répond. Parce que c'est...
Bien. Alors, vous pouvez dire que on peut présenter les choses de deux façons. Vous avez raison de dire que ce n'est pas une métaphore. Voilà. Selon le point de vue du croyant, qui reçoit le texte coranique comme un texte révélé par Dieu, comme la parole de Dieu, Al-Jannatu est une réalité qui existe, mais qui n'est pas de ce monde. C'est ainsi d'ailleurs que le Coran va l'utiliser. Mais lorsque je vous dis que c'est une métaphore, c'est également vrai, puisque dans la langue arabe, on emploie le mot Jannah couramment, dans le langage courant, pour désigner un jardin. Et qu'est-ce qu'une métaphore? Une métaphore, c'est l'emploi d'un sens courant dans la langue, dans un autre sens qui est imagé ou symbolique. Voilà ce que c'est qu'une métaphore.
Métaphore par rapport à qui?
Comment?
Métaphore par rapport à qui?
Par rapport à la langue.
À la langue?
Oui, par rapport à l'usage dans la langue. Par rapport à l'usage des hommes qui parlent une langue. Dans la langue arabe, ça n'est pas par rapport à moi, ça n'est pas par rapport à vous, ça n'est pas par rapport aux croyants, ça n'est pas par rapport aux non-croyants, c'est par rapport au système de la langue. La langue est un domaine objectif qui dépasse tous les individus et tous les emplois subjectifs que les usagers de la langue font de la langue. Ni vous ni moi ne pouvons faire que le mot Jannah ne signifie pas dans l'usage courant un jardin. Voilà la référence. Et je dis métaphore parce que l'usage que le Coran va faire de ce mot commun de la langue arabe va être un usage particulier et un usage religieux justement. Donc il va s'emparer d'un mot pour le transformer et en fait lui donner une fonction sémantique nouvelle. Et cette fonction sémantique nouvelle, elle est métaphorique par rapport à l'usage courant dans la langue. Vous voyez que dès le départ, ça n'est pas pour rien que je commence par vous dire qu'il y a métaphore. Parce que dès que je dis qu'il y a métaphore, je soulève un problème qu'il faut soulever dès le départ. C'est le problème de la lecture de tous les versets du Coran qui parlent de Jannah. comment faut-il lire ces versets-là? Est-ce qu'il faut les lire comme des propositions qui réfèrent à des réalités qui existent, ou bien il faut les lire comme référant à des données, à des représentations symboliques? Le problème se pose, et c'est ce problème-là d'ailleurs que ensuite les penseurs vont discuter. Alors il faut bien, dès le départ, montrer que le problème de Jinna, ça ne consiste pas simplement à dire qu'il y a des rivières de miel qui coulent, il y a de belles jeunes filles toutes vierges, etc. Il y a ceci, il y a cela. On ne vieillira jamais et on sera dans des délices constants. Ça, ce sont des descriptions. Mais toutes ces descriptions, justement, toutes ces houris, par exemple, dont on parle toujours, ces houris-là, est-ce qu'il faut penser à des jeunes filles comme nous en voyons autour de nous? Ou bien il faut penser à une simple évocation symbolique d'une autre vie qui ne ressemble en rien à la vie à laquelle nous sommes habitués? Vous voyez qu'il y a un problème de lecture. Et par conséquent, nous ne pouvons pas avancer dans l'analyse des versets coraniques tant que nous n'avons pas bien compris le fonctionnement du langage religieux, comme je vous l'ai dit déjà à propos du Coran. Est-ce qu'il faut le lire comme un langage ordinaire qui réfère à des réalités littérales, ou bien il faut le lire, est-ce qu'il faut le considérer comme un langage mythique? Voilà ce que nous avons vu. Et ce problème rejaillit précisément à propos de tout ce qui concerne l'umour al-ukhrawiyya, les réalités eschatologiques ou l'eschatologie. Je vous en ai déjà parlé, donc normalement ce mot, je ne devrais même pas le réécrire. L'eschatologie. L'eschatologie, c'est précisément tout ce qui concerne al-Jannah ou Jahannama ou Yawm al-Qiyama, toutes ces réalités de la vie, de l'autre vie. Al-Akhira, al-Hayatul Akhira. Alors, toutes ces choses qui concernent l'autre vie, vous voyez très bien que on va en parler sur des registres tout à fait différents, selon, encore une fois, que nous les abordons en croyant soumis à ce que dit la tradition. Bila kaif. Voilà, vous avez prononcé bila kaif, mais en passant rapidement. Vous savez, il y en a beaucoup qui n'ont jamais entendu ça. Alors ça, c'est une formule, il faut l'écrire. Voilà, une formule à retenir. Recevoir un enseignement, sans demander comment cet enseignement a été construit, d'où vient-il, qu'est-ce que c'est. Il ne faut pas demander. Il faut le recevoir humblement, modestement, et le mettre à exécution. C'est tout. التعاليم القرآنية نتلقاها بلا كيف. Tel est l'enseignement, telle est la position intellectuelle de ce que l'on appelle la tradition. Et pas seulement la tradition musulmane, ai-je besoin de le souligner? La tradition chrétienne a agi très exactement de la même façon. Voilà aussi des choses qu'il faut dire au passage, pour que ne s'incruste pas dans les esprits l'idée que ces musulmans sont d'un dogmatisme épouvantable et qu'ils ont vraiment mutilé la raison et la réflexion et qu'ils n'ont obéi qu'à un dogmatisme inimaginable. Il faut dire que dans l'enseignement des religions révélées, juive, chrétienne et musulmane. Le bilan calife a joué de la même façon, a été imposé de la même façon par les rabbins, par les évêques et la hiérarchie catholique ou protestante, et par les muftis et les imams. C'est la même famille, tout ça.
Et les
ayatollahs. C'est la même famille. C'est la même famille d'esprit. C'est le même regard de l'intelligence sur la langue. Ceux qui refusent la métaphore, refuser la métaphore, dire que rien dans le Coran, rien dans les évangiles, rien dans la Bible n'est métaphorique. Tout ce qui est dit correspond à des référents concrets, vrais, réels. C'est une attitude qui, comme vous le voyez, repose sur un présupposé de la philosophie du langage. Le langage ne comporte pas de métaphore. Le langage tel qu'il est utilisé par Dieu ne comporte pas de métaphore. Qui va trancher le débat, bien entendu, il faut beaucoup d'études pour cela, pour trancher un tel débat. Et encore une fois, selon que l'on accepte de recevoir les choses sans demander comment, et beaucoup acceptent, encore aujourd'hui, en islam, chez les chrétiens, en Israël, ou partout où il y a des juifs, ils acceptent un grand nombre d'enseignements bila kaïf. Et puis il y a d'autres familles d'esprit qui n'acceptent pas. Ils disent oui, d'accord, moi je veux bien marcher, mais laissez-moi analyser, réfléchir et voir comment les choses se présentent. C'est ce qu'ont fait les Mu'tazilites, dont nous parlerons, et qui affirment le droit de la raison humaine. Le droit de la raison humaine à interroger avec les moyens dont elle dispose même le langage révélé, même le Coran. On l'interrogera, on le soumettra à l'analyse. Et puis les falasifas, les philosophes, ils ont fait la même chose. C'est la tendance rationalisante de la pensée islamique, par opposition à la tendance traditionnalisante, traditionnelle, qui, encore une fois, se contente du bilan kaïf.
Et on va étudier ce que nous en avons déduit.
Bien, au sujet de.
Du Coran, des métaphores.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que c'est une partie extrêmement intéressante. Alors vous voyez, si vous présentiez les choses ainsi, je pense que. Là, vous avez quand même quelques éléments sur lesquels vous appuyez pour apercevoir le problème, les problèmes que pose la notion de paradis et d'enfer. Car ce que je viens de dire pour le paradis, évidemment, ça vaut aussi si nous étudions le thème de l'enfer, le thème de Jahannam, Nar. C'est la même chose. Ils vont ensemble, comme vous l'avez dit. Et cet ensemble-là concerne, encore une fois, les affaires eschatologiques, l'umur al-ukhrawiyya, et la vie, la possibilité d'une vie dans l'au-delà. Et là aussi, c'est un credo commun aux religions révélées. Les religions révélées croient que l'homme est appelé à une résurrection, il reviendra à la vie, et cette résurrection aura lieu quand Dieu le décidera, et elle consistera soit à voir Dieu, soit à être séparé de Dieu, selon le jugement que Dieu portera sur la vie de chacune de ses créatures. C'est comme ça que les choses sont présentées dans les trois religions. Le reste, c'est une affaire de description Il y en a qui insistent davantage sur la description. Le Coran insiste davantage sur la description du paradis et de l'enfer. Il le fait plus que les évangiles, par exemple. L'évangile se contente de d'évoquer le thème de la résurrection et de la vision de Dieu. Là est la différence. Mais le principe de la vie dans l'au-delà est le même.
Que si on doit faire un exposé, on doit tenir compte du rythme, de l'époque, du cours. C'est-à-dire, on se situe simplement au premier siècle.
Au niveau du cours.
De l'Égypte, c'est ça.
Ah oui, oui. Évidemment, si vous avez des connaissances, il ne vous est pas interdit de les utiliser. Là, je le fais pour des raisons pédagogiques, parce que je veux que tout le monde avance en même temps. Oui. Il est évident que vous êtes de niveaux différents. Il y en a quand même qui ont fait des études auparavant et qui ont déjà entendu parler de ces choses-là, et d'autres au contraire qui n'ont jamais entendu parler. Mais moi, je suis obligé de respecter l'ensemble. Alors vous, quand vous répondez à une question, si vous le faites dans un devoir écrit, là vous pouvez utiliser vos connaissances, bien sûr, ça n'est pas interdit. Mais si vous vous adressez à un public, vous pouvez utiliser vos connaissances à condition, chaque fois, de les rendre accessibles en les expliquant, comme je viens de le faire. Vous n'avez pas le droit d'introduire comme ça une allusion. Vous savez ce que c'est et les autres ne savent pas. Pas le droit de faire ça.
Quand vous dites que la notion de Jannah est une métaphore, ces données de l'au-delà en ce qui concerne les paradis et les métaphores, alors on prend comme point de départ que toutes ces notions n'ont rien en commun avec les choses réelles, c'est-à-dire que c'est un langage symbolique.
Du point de vue de la pratique de la connaissance, pour nous de nos jours, nous sommes obligés de dire que aucun homme n'a jamais vu le paradis. Donc, nous ne pouvons absolument rien dire dessus. Tout ce que nous pouvons dire, c'est de répéter des choses qui ont été dites. Mais lorsque nous répétons ces choses qui ont été dites encore une fois, nous sommes obligés de nous dire, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Comment nous placer?
Ce que je veux dire, c'est par exemple l'exemple du fleuve de Nil. Est-ce que c'est quelque chose de spécial ou ça réfère exactement à un fleuve de miel dans la réalité? Je veux dire, comment est-ce que c'est compris par les gens qui ont été ça? Comment est-ce que c'était compris au premier siècle?
Oui, oui.
Par rapport
alors,
aux gens.
Eh bien, il y a eu, comme je viens de vous le dire, il y a eu une division. Il y a eu des gens qui prennent ça à la lettre et qui disent il y a un fleuve de miel, mais ce n'est pas comme le miel que font nos abeilles ici. C'est un miel extraordinaire, surnaturel et sans commune mesure avec ce que nous connaissons. Mais il y a une rivière de miel. Il y a une rivière de vin. Mais quel vin?
Il a parlé du vin aussi.
Oui, oui.
Il y a du vin.
Oui, oui, oui. Il y a du lait.
Non, mais le vin,
donc il y a une rivière de lait, etc. Alors, vous avez donc des gens qui prennent ça à la lettre, ils croient que ça existe, et puis d'autres qui prennent ça d'une manière symbolique. Mais ça n'est pas notre vin à nous. C'est du vin surnaturel. De même que les houris ne sont pas semblables à vous.
Il y a quelques-unes, quand même.
Aucune.
Si, il y en a quand même des houris, s'il vous plaît.
Quand savez-vous? Il faut parler.
Maintenant, il y a une correspondance physique entre le diaphorite terrestre et les ondes sur la Terre. par conséquent, c'est-à-dire l'existence humaine dans le là doit correspondre, c'est-à-dire
les poétiques. Oui, en réalité, tout ce langage-là, il faut le comparer au langage poétique, aux évocations poétiques. C'est comme si vous disiez que les évocations d'un poète existent nécessairement. Et cependant, les évocations d'un poète créent des visions. Elles créent des états d'âme. Alors, c'est à cela qu'il faut comparer ces évocations du paradis, de l'enfer et des souffrances et des joies qui sont réservées aux hommes dans l'au-delà.
Mohamed s'est défendu d'être un poète quand même. Quand on l'a accusé d'être poète, elle a dit non, je ne suis pas poète.
Oui, oui. Parce que.
Il a voulu,
différencier le langage religieux du langage poétique, parce que, effectivement, le langage poétique était senti justement comme un langage qui référait
à des métaphores.
L'imaginaire.
À l'imaginaire.
À quelque chose qui n'existait pas. Bon, on peut avancer un peu et revenir à notre exposé. Je ne sais pas combien d'entre vous ont regardé ce petit livre que je vous avais recommandé au début de l'année et qui s'appelle Ibn al-Muqaffa, conseilleur du calife. Qui a lu ce livre ? Et voilà, voilà comment vous travaillez. Et je vous avais dit que ce livre comporte un texte arabe ici, sa traduction très très rigoureuse ici, ce qui vous permet de faire d'excellents exercices de version. Il comprend un excellent lexique à la fin, un lexique complet à la fin. Ça vous permet donc de faire des progrès en langue arabe. Et ça vous permet en même temps de découvrir un auteur, un penseur extrêmement intéressant et original. Et vous ne voulez pas. C'est trop barbant. Il ne faut faire que des choses agréables. Il faut être dans le Jannah. Voilà. Mais le Jannah risque de se changer en Jahannama. Bien, alors je répète que Ibn al-Muqaffa, il faut faire connaissance avec lui, Ibn al-Muqaffa a été assassiné en 140 de l'Hégire, 757, dans une période d'agitation politique et sociale, parce que entre 755 et 760, il y a eu ce que l'on vous enseignera, la révolution abbasside. La révolution abbasside. C'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement de révolte politique contre le pouvoir de la dynastie Omeyyade installée à Damas. Et cette révolte a eu lieu en Irak et dans la province iranienne du Khorasan. Alors c'est au cours de ces événements que Ibn al-Muqaffa, qui est un Iranien d'origine et qui appartient à l'aristocratie iranienne, c'est-à-dire à une classe de lettrés qui, en Iran, existait depuis déjà plusieurs siècles, depuis qu'a existé en particulier la dynastie des Sassanides. Depuis le 3e siècle après Jésus-Christ, 3 siècles avant l'apparition de l'islam. Et dans la cour des Sassanides, il y avait des intellectuels qui avaient déjà la pratique de la réflexion politique, la pratique de la réflexion sur l'organisation administrative d'un pays, la pratique sur la conception et l'application du droit. Donc, des problèmes d'organisation pratique d'une société. Et cette tradition-là a été illustrée par un grand nombre d'intellectuels iraniens, et nous trouvons avec Ibn al-Mukhaffa un représentant éminent de cette tradition iranienne qui maintenant vont faire le même travail de réflexion, d'organisation, mais non plus en iranien, non plus pour une dynastie iranienne, mais dans le cadre désormais établi d'une dynastie arabe et musulmane. Et dans la Risalat Sahaba que voici, Ibn al-Mukhaffa a défini à l'intention du calife abbasside al-Mansour, le premier calife abbasside, il définit les conditions d'une organisation ou d'une réorganisation par rapport à ce qui était déjà sous les Omeyyades, d'une réorganisation de l'administration califale, parce que sous les Omeyyades, l'administration califale était encore sous l'influence des habitudes bédouines, de la société bédouine, de la tradition bédouine arabe, alors que avec les Abbasides, qui avaient été soutenus par des armées arabes, mais aussi par des armées où se trouvaient des Mawali, c'est-à-dire des Iraniens, avec cette nouvelle dynastie, justement, les éléments iraniens vont essayer d'introduire dans l'administration du calife la vieille tradition d'administration iranienne. Voilà le sens de ce texte où Ibn al-Mukhaffa traite, par exemple, du droit en ces termes. Voilà un passage que je vais vous lire. Une des questions qui doivent retenir l'attention du commandeur des croyants, Amir al-Mu'minin, touchant la situation de ces deux métropoles, Basra et Koufa. Vous voyez, il parle d'une organisation précise. Et d'autres cités et régions de l'Empire. Et le manque d'uniformité, la contradiction qui se fait jour dans les jugements rendus. Quelle est la signification historique de cette petite phrase ? Ô vous qui êtes doués d'intelligence, ya ulil albab, et oui, c'est vous, je m'adresse à vous. Quelle est la signification historique de ce petit passage ? Il lui dit, je répète, une des questions qui doivent retenir l'attention du commandeur des croyants, il s'adresse au calife abbasside, touchant la situation de ces deux métropoles, Basra et Koufa, je vous en ai déjà parlé et je vous ai dit leur importance, et d'autres cités et régions de l'Empire, il pense à l'Égypte, il pense au Maghreb, il pense à l'Andalousie, il pense à l'Iran, qui était déjà conquis. Et le manque d'uniformité, la contradiction qui se fait jour dans les jugements rendus. Ces jugements rendus par les juges dans les dans les villes, lorsque des gens ont des problèmes de mariage, des problèmes de succession, des problèmes de vente, des problèmes, toutes sortes de problèmes à régler.
Je crois que mon papa touche ici un problème très important, à savoir la centralisation, le pouvoir central. Si les pouvoirs, si les jugements vont être rendus différemment, c'est l'effritement de l'Empire. La centralisation permet le regroupement de l'Empire et sa solidité. C'est le problème majeur très important qu'on voit même maintenant, c'est le problème de la centralisation, du pouvoir central.
Oui.
Mais le pouvoir central dans le sens musulman et dans le sens arabe.
Oui.
C'est-à-dire que je crois que le problème posé là, c'est que dans différentes régions, il y a eu différentes cultures, à part la culture arabe, qui ont dû se greffer sur les jugements qu'un musulman ou qu'un arabe.
Justement, Abdel Moukaf a mis en garde contre cet effritement. Abdel Moukaf a déclaré qu'il est pour la centralisation, qui est un problème très important pour un gouvernement, pour le gouvernant. C'est très important.
Au moment de l'expression, les tribunaux ne sont pas de la même ligne. Chaque ville et chaque pays, lorsqu'ils rendent des jugements, ben, ils ont des jugements plus ou moins adéquate à leur situation. Alors il a dégagé qu'il y a des contradictions entre ces jugements. Là il a essayé de se demander, avec cette réflexion, de faire une harmonie et de faire un ensemble. Comme ça, on ne peut pas juger différemment et contradictoirement le même fait.
Oui. Ah bon, alors il faut d'abord constater avec cette proposition que s'il demande au calife d'uniformiser la législation, c'est que cette législation, à l'heure où il écrivait, c'est-à-dire à la fin de la dynastie Omeyyade, un siècle 632 jusqu'à 750, ça fait presque un siècle et 20 ans que le prophète est mort, eh bien un siècle après, la loi islamique, ce que nous appelons la loi islamique, n'est encore pas définie. Elle n'existe pas encore. Ça, c'est une donnée historique extrêmement importante. Parce que les musulmans aujourd'hui considèrent que dès l'époque du prophète, la loi musulmane était déjà appliquée. Elle existait et on l'appliquait, ce qui est faux. Historiquement. Témoignage de l'effort lent, difficile des autorités pour substituer une loi centralisée, donc pour imposer l'autorité d'un État centralisateur contre la vivacité, la résistance de ce que l'on appelle
la périphérie,
l'Urf, c'est-à-dire les coutumes locales. Les coutumes locales. Vous qui avez bien étudié l'histoire de France, que s'est-il passé en 1789 à cet égard? Que s'est-il passé? Le droit coutumier des provinces françaises, qui avaient chacune ses poids et mesures, qui avaient chacune ses institutions, sa règle successorale, sa règle familiale d'organisation de la famille, etc. Ces droits coutumiers ont été supprimés par la Révolution française pour créer quelques années après le fameux code de Napoléon sur lequel vit encore la France et qui a joué un rôle unificateur et centralisateur que réclame Ibn al-Muqaffa en 755. avant Charlemagne. Voilà l'importance historique de ce phénomène, de cet écrit que vous ne voyez pas. Parce que c'est, qu'est-ce qu'il veut dire? Uniformiser, centraliser. Elle n'avait aucune espèce de formation historique pour lire un texte d'histoire.
Je l'ai dit quand même.
Oui, je l'ai dit. Vous n'avez pas fait exprès, mais vous ne faites pas grand-chose pour y remédier. C'est contre cela que je m'insurge. Que vous ne le sachiez pas jusqu'à présent, d'accord, mais que vous ne réagissiez pas devant un texte dont je vous dis qu'il date de 140 de l'Égypte, ça prouve quand même que vous n'avez pas du tout le sens de l'analyse historique.
Rendez-moi justice, moi je le dis, monsieur.
Oui, mais pas tout à fait comme il conviendrait. Je continue parce que l'heure avance. Ces divergences, dit-il, présentent un sérieux caractère de gravité en ce qui a trait au sang, c'est-à-dire aux condamnations à mort, aux femmes, délits sexuels. Vous voyez, il donne des cas précis. Les délits sexuels sont punis de façon différente à Basra et à Koufa. Dans des quartiers de Basra, dans des quartiers de Koufa, selon que l'on habite dans un quartier qui a une coutume iranienne, ou dans un quartier qui a une coutume arabe yéménite, ou une coutume arabe taminite du nord, eh bien, on va appliquer des références différentes, des jugements différents. Eh bien, c'est cette diversité des coutumes que le calife est invité à supprimer. À Al-Hira. Al-Hira, c'est une ville à l'ouest de l'Irak. Condamnation à mort et délits sexuels sont considérés comme licites.
D'accord.
À l'heure où il parlait. Oui. Alors qu'ils sont illicites à Koufa. Vous voyez, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Il faut faire des comparaisons comme ça pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et jusqu'à présent, le phénomène des coutumes n'a pas encore disparu. Jusqu'à présent, vous pouvez aller au Maghreb, vous pouvez aller en Égypte, vous pouvez aller en Iran, vous pouvez aller partout, et bien malgré ce texte, et malgré l'effort d'uniformisation de la charia, de la loi religieuse, eh bien, on n'est pas encore venu à bout de la coutume qui continue d'exercer son empire dans un grand nombre de groupes sociaux. Un autre passage dit ceci: le cadi qui prétend respecter la sunna baptise sunna des dispositions qui n'en sont point. Ah, je m'arrête, ça suffit. Cette phrase-là, qu'est-ce qu'elle vous suggère? Le cadi qui prétend respecter la sunna baptise sunna des dispositions qui n'en sont point. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que la sunna, peut-être.
C'est le problème des hadiths d'Aïf, ça. C'est la création de la sunna en vue de justifier un jugement.
Qu'est-ce que c'est que la sunna?
La tradition
du prophète. La sunna pour Rasoul.
C'est que dit qu'il n'est pas obligatoire
de. Ce qui n'est pas obligatoire dans les.
Dans les devoirs d'un croyant.
Ah bon? Eh oui, on avance péniblement, ou plutôt on n'avance pas du tout. Hein. On n'avance pas du tout, on fait du surplace. La sunna, on ne sait pas ce que c'est.
Sinon, c'est la question.
Bon, écoutez, moi je ne vais pas me répéter, hein, parce que il y a quand même des choses que j'ai déjà dites et je ne vais pas me répéter indéfiniment. Et le caddie, qu'est-ce que c'est? Le caddie, c'est un c'est un administrateur de la justice. Il rend la justice et il veille à l'application de la loi définie dans la charia, pas dans le Coran. Le Coran ne définit pas de loi. Dans la charia, c'est le juge musulman.
Alors, le musulman est créateur de loi.
Nous apercevons ici que les juges, en 750, n'observaient pas la sunna, n'obéissaient pas à la sunna, parce que il faisait prévaloir la coutume locale. Et ils jugeaient en fonction de ce que l'on appelle leur opinion personnelle, et non pas en fonction d'une méthodologie qui va être définie plus tard, au deuxième et troisième siècle de l'Égypte. Alors ceci, cette phrase-là, pose le problème de la formation de la charia. C'est ça qu'il faut apercevoir. Car les musulmans aujourd'hui, et tout les langages qui déferlent sur nous depuis que Ayatollah est à la mode, ils nous enseignent que les musulmans veulent retourner tous à l'islam primitif. Et qu'en retournant à l'islam primitif, ils vont opérer une révolution politique sans précédent. Mais qu'est-ce que l'islam primitif? Est-ce que c'est l'islam qui s'est développé de 632 à 750 au temps des Omeyyades? En ce temps-là, nous voyons, on n'invente rien, ça c'était un document historique. Ce n'est pas du naïs de journaliste ou d'idéologue. C'est un texte que nul ne peut récuser. Nous voyons que la charia, pendant tout le premier siècle, n'existait pas encore. Et que lorsque les musulmans aujourd'hui, aussi bien en Égypte qu'au Maghreb, que n'importe où, revendiquent le retour à l'islam primitif, donc du premier siècle, ils réfèrent en réalité à un mythe. Ils ne réfèrent pas à l'histoire. Voilà l'idée très importante et très actuelle qu'il s'agit de retenir. Si tant est que la réflexion historique vous intéresse.
Mais le problème de
l'unification de la
religion, le séjour de l'au-delà destiné aux élus. Il y a plusieurs autres termes qui désignent Jannah. Ce sont ou bien des synonymes de Jannah, effectivement, ou bien des particularisations de Jannah. Par exemple, le jardin de l'éternité, le jardin des délices, le jardin d'Eden, la demeure du salut, la demeure de la vraie vie, et ainsi de suite. Il y a plusieurs donc, synonymes ou particularisations de la notion de Jannah. Les données